Fait que Thomas, tu peux partir quand tu veux.
All right.
Thomas, finalement, pas tout de suite.
Ah, OK. Pourquoi?
Parce que ma fille vient juste d'arriver. Fait que elle se met à crier. Ah. On va juste attendre un peu qu'il...
Mais là, c'est parce qu'il faut être dans tes paramètres pour mettre la DB.
Il faut que tu mettes tu mettes ta fille à off. Ouais. Faut que tu la désactives.
Déjà, oui, c'est beau ça, Thomas, encore.
Je peux y aller?
Ouais.
Je l'entends. OK, j'y vais. C'est quand? OK. Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre et où on jase de stratégies, d'essais et d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Fait qu'aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Michael Laraguibel.
Salut tout le monde, content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on fait une entrevue avec un artiste pluridisciplinaire au nom de Fred Péloquin.
Salut tout le monde, Langue à Langue, le podcast, ça commence maintenant!
Bon, salut Fred, c'est le fun de t'avoir, aujourd'hui dans ce local plein de marionnettes.
Ben, merci de l'invitation et ouais, ben, merci à toutes les personnes qui font en sorte que je peux être dans ce local plein de marionnettes. Peut-être allez-vous les voir tout à l'heure.
Oui, c'est ça que tu me disais, c'est le local de Anne Marionnette, c'est ça?
Exactement.
Ok, ouais, c'est ça. Cool. Exactement. Ben écoute, ça serait le fun, ben, comme tu le sais, le podcast, on parle un peu des démarches d'artistes, puis toi, tu as quand même beaucoup d'expérience de scène. Fait que je serais curieux, t'entrais-tu de nous dire un petit peu, l'évolution de ta démarche un peu, parce que toi, t'es musicien à la base, hein, c'est ça? Ou à la base?
Explique, ben non!
Non, mais comme... non c'est ça, hein, explique-nous un peu ton parcours. Parce que
vas-y, là!
C'est ça!
À la base, moi, je... La musique m'est tombée dessus en 2001, tu sais, c'est l'an 2000-2001. J'étais allé en Europe, je suis revenu, j'étais complètement perdu, tu sais, je devais partir 2 mois, je suis parti 6 mois, puis là, en revenant, mes meilleurs amis avaient un groupe de musique, puis c'était comme si j'étais jamais parti, puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que vous faites, tu sais, vous jouez de la guitare, puis j'étais comme, ben ouais, on a un groupe, puis t'es dedans, tu sais, fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je joue pas de musique, les gars. Puis là, il était comme, ah ouais, c'est pas grave, tu vas chanter. Tu sais, puis moi, à l'époque, j'étais comme, voyons, chanter. Tu sais, ça marche pas. Fait que là, finalement, ben, moi, dans ma famille, tu sais, il y a tout le temps eu de la musique, sauf que, malheureusement, mon grand-père avait perdu l'usage de la parole, puis beaucoup de dextérité, là, dans un ACV. Fait que toute la famille avait arrêté de jouer de la musique. Puis je savais qu'il y avait quelque part quelqu'un qui avait eu un accordéon. Fait que j'ai lancé ça de même à mes parents. Si vous trouvez un accordéon dans le temps des fêtes cette année, ramenez-moi-le, j'aimerais ça l'avoir. Et puis, c'est arrivé. Mon père est revenu avec une grosse valise brune. Il a mis ça sur la table. Puis, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis, il dit, ben, fais attention à ce que tu souhaites. C'est ce que tu voulais, tu l'as. Là, j'ai pogné un accordéon. Puis, bon, j'ai joué beaucoup de musique avec des gars. On avait un groupe qui s'appelait les Amochés du Bocal à l'époque. Et c'était pas mal amusant. On a été célèbre à très peu d'endroits, mais notamment d'Astralamus à Québec, c'était vraiment génial, c'était notre premier show, tu sais, ça faisait comme 2 mois, 3 mois, je jouais de l'accordéon, puis d'un côté de la scène, il y avait comme des gens qui nous traitaient de hippies, puis qui étaient comme, vous savez pas jouer, vous êtes qu'une gang de hippies, ça vaut pas de la boîte, puis l'autre bord, il y avait plein de monde, nos amis qui dansaient, puis là, puis le serveur qui arrêtait pas de nous amener des pichets, puis il était comme, vous êtes mon meilleur band de l'année, tu sais, puis c'est le même que ça a commencé, à peu près, de la musique, parce que sinon, ben, c'est ça, j'ai étudié en art visuel à l'UQAM, en fait, là, fait que j'ai un parcours universitaire qui a été disloqué parce que, à un moment donné, Marco Cagliari m'a engagé comme musicien, fait que j'ai fait de la tournée avec lui pendant près de 10 ans, fait que t'sais, pour moi, l'arrivée sur la scène, c'était pas quelque chose que j'avais nécessairement planifié ou que j'avais anticipé ou que j'ai travaillé pour. Je suis comme j'ai rencontré un paquet de personnes, puis ça a fait en sorte que je me suis retrouvé sur des vraiment gros stages assez rapidement, en fait.
Mm.
Je fais de mon mieux pour faire ça court. Là.
Puis, mais comme tu n'étais pas, destiné nécessairement à la scène, ça t'est tombé dessus, est-ce que tu as senti qu'il y a eu une évolution de toi sur scène? Tu sais, au début, t'étais-tu à l'aise de jouer devant le public? C'était-tu quelque chose que tu avais de la misère, puis tranquillement, ça s'est dégéné?
Ah, mais c'est sûr que ça a changé énormément, mais tu sais, parce qu'à la base, mon premier show, je sais pas comment dire, avec les Amochés, ça allait parce qu'on avait, on pratiquait, puis tout, puis c'était comme, c'est un peu la rue qui est à nous style, si tu veux, ou les trois accords avant l'avènement des trois accords, là, tu sais, c'était ce genre de musique un peu, puis c'était clarinette, guitare et banjo. Mais tu sais, le premier show avec Marco, j'étais juste pas prêt à zéro, là, je suis resté sur scène tout le show. Je connaissais une toune, tu sais. J'avais le temps d'apprendre juste une toune. Je restais là tout le long, puis j'ai joué de la tambourine, je tapais des mains, puis tout. Puis à la fin du show, il est venu me voir, puis il était comme, t'es mon gars, apprends les tounes, puis dans ça, puis tu sais, j'ai joué 10 ans avec, finalement, tu sais. Il était comme, juste comme, apprends les chansons, puis ça va bien aller. Mais j'étais pas, tu sais, j'avais pas été capable d'apprendre l'ensemble des chansons à ce moment-là, puis tu sais. J'étais stressé fou. Ça n'avait pas rapport à ce moment-là comment j'étais stressé, ce show-là. Puis Alexis Dumais, qui est un super musicien, qui m'avait comme dit, fais-toi-en pas, Fred, dans la salle, il y a juste des accordéonistes qui sont venus juger l'accordéoniste. Fait que lui, déjà, en partant, il m'a donné une jolie leçon en partant. Que juste comme, viens faire tes affaires, relax, ça va bien aller. Ouais. Puis oui, avec le temps, c'est sûr que les choses ont évolué énormément. Puis, bah, j'ai fait vraiment beaucoup de spectacles. Puis notamment, là, tu sais, on va arriver à comment moi j'arrive à faire de la scène puis des trucs, c'est qu'à un moment donné, au début, Marco faisait encore Anonymous et son show de Marco Cagliari, c'est ça. Des fois, il faisait deux shows par soir où il allait faire un 4-5 shows en 3 jours. Tu sais, nous autres, ils nous laissaient à quelque part puis ils flyaient pour aller faire 200 km puis aller rejoindre Anonymous pour faire un autre show. Puis, ben, il s'est rendu pas mal au bout de ça. Fait que c'est arrivé à un moment donné, vers la fin du spectacle, puis il se revire vers nous autres, puis qu'il allait plus bien, il était juste plus en forme, puis qu'il est parti en courant, puis il nous a dit arrangez-vous, tu sais. Mais tu sais, arrangez-vous, ben, ouais, c'est cool, c'est rendu le rappel, puis la foule, elle est comme, elle pense que t'es juste sorti de scène parce que t'es sorti de scène. J'ai regardé les musiciens, puis j'ai fait « Bon, ben OK, on va faire telle tune, c'est ça la tonalité, puis let's go. » Puis on s'est mis à faire cette tune-là, puis après ça, ben c'est devenu récurrent, finalement, à tous les spectacles pendant presque un an et demi. On jouait, je faisais la première tune de rappel du show de Marco, puis lui, ça y servait à reprendre un peu d'énergie, à se calmer, puis revenir en force. Puis ben moi, c'était vraiment super le fun, parce que j'ai goûté à être vraiment un frontman, en fait, pendant...
Ah, c'est ça, c'est les premières fois que tu t'adresses vraiment au public, tu commences vraiment à avoir une interaction avec eux, là.
Ça, c'est dans les plus grosses situations. Sinon, en 2004, j'ai sorti un EP qui s'appelle « Du fort et des glaces ». Puis ça, je l'ai un petit peu joué, mais vraiment pas beaucoup à l'époque, là. Tu sais, j'étais trop dans la... Mais ça, j'étais à l'université... Je fais de la tournée avec Marco, je continue à travailler en boulangerie parce que faut que je vende de quoi pour vivre. Fait que, tu sais, tout est en même temps, finalement. Fait que j'ai pas joué beaucoup mon show, mais la première fois que j'ai joué mon show solo, c'est à Stoke, en Estrie, un petit village vraiment pas loin de mon village natal. Et c'est vraiment cool parce que c'était un souper spectacle, puis parce que personne ne s'attendait à ce qu'il allait se passer là, puis moi non plus, en fait. Il y avait une madame avec son enfant de 11 ans, puis la madame, elle se tenait la tête de même, puis elle était comme, faites-le taire, arrêtez. Le petit gars, lui, il me regardait de même, tu sais, comme... Oh! Finalement, j'ai dit à madame, il y a quelque chose de pire qu'un poète pour faire l'éducation de votre enfant, madame. Mais voilà, je sais pas, tu sais, c'est une multitude de choses qui m'amènent là, en fait.
Ouais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment les accidents ou les imprévus de la scène qui t'ont amené à te découvrir, dans le fond, c'est ça? Est-ce que je comprends?
D'une certaine manière, oui, tu sais, parce que c'est... Quand je rencontre l'accordéon, la, ça, c'est, c'est une révélation, c'est une passion qui naît d'un coup, mais ça vient aussi avec le fait que, puis ton mot accident est vraiment bon, ça vient avec le fait que je viens de faire un paquet de commotions cérébrales à faire du sport, parce qu'avant, moi, j'étais un super sportif. J'étais goaler au hockey, j'ai joué au rugby, j'ai fait du kung-fu, j'ai joué au football, au soccer, n'importe tout. Mais dans tous ces sports-là, j'ai été surtout excellent à me péter à la gueule et à me faire péter à la gueule. Fait que, tu sais, une multitude de commotions cérébrales, perforation de la rate, tu sais, j'ai un compte qui parle de la c'est une menterie, là, c'est dans, en tout cas, c'est une de mes meilleures menteries, mais c'est une histoire vraie. Fait que oui, les accidents sont à la base de tout ça, puis tu sais, j'ai vendu finalement mon équipement de hockey suite à la rencontre avec un médecin qui m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu vas être millionnaire cette année à jouer au hockey? Puis j'étais comme, ben non. Il était comme, ben, vends tout, man, t'arrêtes. Là, tu vas avoir de la misère à compter jusqu'à 4 là, si ça continue comme ça. Fait que j'ai tout vendu mon équipement de goaler pour m'acheter un accordéon, finalement. Fait que, oui, c'est les accidents qui m'ont probablement amené là, mais je fais beaucoup moins d'accidents depuis que je joue de l'accordéon.
Les commotions, ça a diminué.
Les commotions ont diminué, en effet.
Ça serait quand même rough de donner une commotion avec un accordéon.
Non, faut pas en parler, faut même pas imaginer que ça peut arriver.
Parce que tu vas trouver la manière que ça peut arriver. Ouais, c'est ça. Le pluri, parce que c'est ça, t'es juste là, tu t'as parlé un peu de compte, mais t'as fait du slam aussi, t'as fait comme, est-ce que c'est arrivé aussi par accident, le pluri, ou le côté pluridisciplinaire a amené des artistes d'autres disciplines, ou ça a toujours été avec toi dès le début, tu sais, comme, comment ça s'est...
C'est une bonne question. T'sais, j'écris vraiment depuis très, très, très longtemps, en fait. Je pense qu'à la base, même quand j'étais en j'ai fait le cégep en art visuel la première fois, j'ai toujours écrit. Depuis que j'ai commencé à aimer lire, je dirais, au secondaire, à quelque part, je me suis mis à écrire. Puis ça, déjà, ça l'a amené deux côtés à mon partant, là, à ma recherche artistique, je dirais. Fait que à la base, il y a ça. Puis après, ben là, c'était les rencontres ici et là. Puis tu sais, je veux dire, je pense qu'en étant en art visuel à l'UQAM à Montréal, ça m'a permis de rencontrer des artistes vraiment cool qui étaient beaucoup plus dégénés puis beaucoup plus émancipés que moi quand je suis arrivé à l'UQAM déjà. J'ai joué avec un truc obscur qui s'appelle, je pense, c'est Rubert et ses sales chats. Il faudrait que je retrouve le nom. Et ça, mais mon premier show à Montréal, ça se passe au Fofone électrique pendant une soirée heavy metal. Moi, je suis attaché dans une chaise roulante avec mon accordéon sur moi, un casque d'hockey, le micro qui descend en plein dans ma face parce que c'est ça qui va faire sonner l'accordéon. Mes mains sont attachées après une amie artiste qui, elle, est dans une camisole de force, mais avec des bras beaucoup trop longs. Fait que quand qu'elle court, ben, c'est elle qui déplace ma chaise roulante en tirant sur mes bras, en m'empêchant de jouer finalement. La crowd heavy metal était peut-être même pas prête pour voir ça. Puis tout ça, ben, évidemment, finit avec moi qui n'est plus capable de jouer. Je suis même plus à terre. Puis elle qui son soude se fait déchirer. Puis à part comme un peu à travers la scène. T'sais. Fait que ça, fait que le côté pluri, je pense que. Dans toute l'idée de la performance artistique qui est propre à l'art visuel, en fait, je pense que ça a permis aussi de créer des explosions, en fait. Là. Puis là, c'est ce qui fait que maintenant, dans mes shows, ben, j'ai justement, là, comme en arrière de moi, là, j'ai de la marionnette, j'ai du cirque, j'ai idéalement un magicien puis des bons musiciens avec moi, puis c'est ça qui est cool. Là.
Puis comment ça s'agence, tout ça? T'sais? Est-ce que ça... Comment est-ce que ça te permet de... T'as-tu un univers que tu développes à travers ça ou c'est vraiment... Tu t'arranges avec ces rencontres-là puis tu vois où ça mène puis vous créez un truc à deux ou à trois ou à je sais pas combien. C'est comme...
Ben, tu sais, là, actuellement, on parle beaucoup de... On parle beaucoup de mon imaginaire à moi, tu sais, de mes histoires, mais tu sais, c'est pas à mi-chemin... Je ne suis pas là musicalement pour placer le monde qui ne connaissent absolument pas ce que je fais. Peut-être, genre Thomas Fersen a une influence nette sur moi, Brassens, Plume, Les Têtes Raides des groupes français, puis évidemment les colocs au Québec. Je raconte des histoires, je mets des choses en scène. Fait que c'est pas pas long que j'ai, par exemple, ma pièce Boko Spekum, c'est un vampire. Fait que, bon, ben, c'est un vampire, là. C'est fou, juste avant le confinement, je me suis fait faire un super beau suit par une amie, puis j'ai jamais pu le porter encore parce que on n'a pas eu de spectacle dans lequel je peux le faire. Mais j'ai une belle manche de vampire, puis ça avec mon accordéon. Fait que quand je rouvre, c'est super beau, mais bon, c'est pas là. Fait que, tu sais, pour un magicien, par exemple, qui vient ouvrir le spectacle en faisant des tricks un peu mentalistes ou, lui, il installe rapidement une ambiance, puis après ça, ben, ça laisse déjà la place à ma musique, à moi qui peut rentrer. Puis là, tu sais, je parle de Vocus Pecum, mais j'ai aussi des belles tunes de Punaise de Lee, puis une autre chanson qui s'appelle Rats, Skunk and Chicks, puis tout ça, puis aussi des tunes plus engagées qui brassent un peu plus la baraque. Puis, ben, dans les pièces instrumentales, par exemple, ben, c'est là que Josiane, par exemple, va faire des équilibres ou plus des manipulations de feu ou animer des marionnettes, finalement. Mais je fais énormément confiance à toutes les personnes qui viennent travailler avec moi, en fait. Je suis pas quelqu'un qui dit au monde quoi faire, quand le faire. C'est plus comme baigne un peu dedans, puis on va travailler ensemble, puis moi, c'est comme si mon baptême avait été fait sur scène, en fait. Fait que c'est pareil pour mes textes, même en slam ou quelque chose. J'ai beaucoup de difficultés à considérer qu'une chanson est bonne ou qu'un texte est bon ou qu'un conte est bon s'il n'a pas été fait devant public pour vrai. Tu sais, c'est comme j'ai beau le relire plein de fois ou jouer la toune plein de fois dans mon salon, ça ne me dira pas si elle est bonne ou pas. J'ai beau l'enregistrer, l'écouter, la faire écouter à d'autres, ça reste, c'est pas ça. J'ai besoin de la vraie rencontre avec le public là, pour vraiment gager où est la qualité de la pièce que je présente. Puis,
Tu retravailles-tu beaucoup en fonction de la réaction du
public? Ben, l'interaction du public, comment le public répond, mais puis comment mes... je pense que les gens avec qui je travaille, c'est aussi des passionnés, puis c'est des gens qui sont des pros de leur côté, fait qu'il n'y a aucune raison de ne pas leur faire confiance dans ce qu'ils font.
T'as parlé de Josiane, on pourrait peut-être écouter un extrait vidéo que tu nous as envoyé, c'est votre dernier show, c'est ça?
Là, je t'ai perdu.
Là, est-ce que je suis là?
Je vous perds, les amis.
Thomas, tu peux recommencer ce que tu avais dit? Finalement, on allait voir un extrait.
Ouais. Ben, j'allais dire, justement...
Josiane, en parlant de Josiane, on pourrait aller voir un extrait.
Ben, c'est ça, en fait. Tant qu'elle nous parlait de Josiane, on pourrait... Mais ce que je te demandais, c'est-tu ton dernier show que vous faites ensemble? C'est votre dernière création?
Ben, dans le fond, si je me trompe pas, là, l'extrait que vous voulez montrer, c'est le bout à l'extérieur. Donc, ça, c'est un spectacle qu'on a fait à Saint-Tite pour une résidence de personnes âgées. En fait, qu'on a fait c'était pendant le confinement. Donc, nous, on était dehors, puis on s'est adressé à trois façades. Et puis, c'est Josiane Lamoureux qui a fait le montage vidéo et tout. Fait qu'il y a une partie de la musique qu'on entend, en fait, vient de mon album Caresse et Stigma, qui est sur Bandcamp et que vous pouvez acheter si vous voulez. Mais sinon, c'est elle qui... C'est vraiment Josiane qui a fait toute la job. Il y a un petit bout de live dans lequel je parle aux madames et tout, mais c'est justement c'est la beauté de ce genre de travail que je fais, c'est que c'est super versatile puis on peut se permettre d'aller un peu changer le spectacle, continuer avec des pièces que moi je fais, mais en amenant plus... L'art du cirque au premier plan, finalement, puis de continuer à chercher des pistes de création, puis des manières de se diffuser, même en période difficile, je dirais.
Parfait. Super. Ben écoute, on va écouter ça, puis on en revient là-dessus.
Sure!
Alors, c'est... Alors, je ne m'explique pas pourquoi il n'y a pas de musique, mais je vais le rajouter après l'écoute.
Faire semblant qu'on l'ait écouté. Comment ça a vraiment aimé ça, votre podcast?
C'est ton genre, hein, avec des accidents.
C'est bien beau, mais de temps en temps, Josiane, ses batteries tombent à off. Fait que là, on va pouvoir la recrinquer. OK? Bon, ça, c'est une bonne idée. Les applaudissements, ça marche bien, mais vous avez déjà bien réagi à tout ça. Fait que là, j'ai besoin de vous tous là-bas, là, toute la gang, là, au balcon, dans, là-bas. On dirait qu'il y a une piscine creusée, vous avez l'air bien là-bas. En tout cas, OK, tout le monde, on va se faire une espèce d'incantation. Les mains en haut. Bobby Blue Blue. Les mains à gauche. Ba 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 ba. Les mains à droite. Kuchi kucha kacha. Puis les mains au haut.
Et voilà.
Pas.
Alors, c'est la fin de l'extrait.
Et une chance que le montage est là pour faire croire qu'on a pu l'écouter.
Wow.
Tu disais ce show-là permet. C'est le genre de show, tu dis, qui nécessite des adaptations. C'est ça, puis que ça devient un petit peu de je sais pas, là, de trouver des stratégies pour s'adapter à ça. Parce que c'est en contexte de, il y a des COVID, il y a la COVID, il y a les personnes âgées, tout ça. Puis vous, comment, c'est ça, jusqu'à quel point c'est une structure fixe, tout ce show-là?
Ben, là, c'est intéressant parce qu'il faudrait que mes collègues, en fait, puissent en parler aussi. Parce que moi, si c'était juste de moi, je ne ferais jamais le même show. Je mélangerais les tunes. J'haïs ça, faire des setlists. C'est vraiment... Tu sais, je commence avec les mêmes tunes. À un moment donné, j'aime voir où on s'en va avec le public. Mais, mes musiciens, puis les artistes avec qui je travaille et tout, eux, manifestement, ont besoin de plus de structure dans tout ça. Fait que... C'est déjà là, c'est un travail. Puis je suis conscient que si on donnait le même show tout le temps, il deviendrait sûrement vraiment très bon puis tout. Mais pour moi, il y a quelque chose qui m'intéresse pas, ou c'est que, ah, tu sais, je veux dire, c'est que je fais pas assez de millage, ou si tu fais 300 km entre tes shows, si en Europe, tu es sûr que tu as un nouveau public à tous les 25 km, puis tu peux rouler le même show constamment. Mais moi, faire la même blague à la même place, de la même manière, c'est pas tout à fait ce qui me fait triper dans ce truc-là. Puis souvent, je commence mes shows en disant au monde, ben, c'est un peu un spectacle dont vous êtes les héros. Tu sais. Donc, si vous me parlez, il va se passer de quoi? Je vais réagir, vous allez réagir, puis on va. Finalement, je vais me mettre à vous raconter des histoires que j'avais pas prévu vous raconter là. Puis ça, ben, avec le temps, ben, justement, là, Jean-Sébastien Leblanc, clarinette, puis Julio là, au tuba notamment. Qui m'accompagnent beaucoup. Pis ils sont devenus super bons à juste improviser des musiques sur mes contes ou sur mes histoires sans même nécessairement savoir là, ce qu'il en est. Là. J'ai mon ami Andrea Gaudi aussi, à guitare, qui est arrivé qu'on fasse des shows et qu'il voit écrit à quelque part sur cette liste. Juste, c'est quoi ça? C'est quoi la sonde que je fasse? Bah, t'as jamais entendu, mais c'est pas grave, là. Tu improvises, tu vas t'amuser, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'aime faire le plus. Mais parce que je joue avec des bons musiciens, fait que c'est comme leur donner tout le potentiel. Puis moi, souvent, à ce moment-là, je dépose mon accordéon pour vraiment me concentrer dans le compte. Puis tout, avec Josiane, dans l'extrait qu'on vient de voir, encore là, c'est des moments où on improvise quand même beaucoup aussi. Parce que souvent... Elle va partir avec une série d'enchaînements ou des trucs que je connais pas nécessairement et qu'on n'a pas être habitué de les faire sur une certaine musique qui est préenregistrée ou quelque chose comme ça. Puis moi, ben, j'essaie de m'adapter à ses mouvements puis à ce qu'elle a fait, en fait. Mais on est encore beaucoup dans l'exploration, dans tout ça, mais c'est cool parce que ça nous a permis de finir des shows en allant faire, tu sais, Josiane qui part, qui va faire du feu à la brunante ou après le spectacle, il n'y a plus de lumière du tout. Comme, c'est ça, là, pour les personnes âgées dans le centre à Saint-Tite, ben, ils ont juste trippé, puis de voir les madames en train de danser, puis tout, c'est cool, c'est contagieux, tu sais, fait que c'est pour moi, ça, c'est important d'avoir plusieurs, même être pluridisciplinaire, même dans la discipline du spectacle, en fait. Là, ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre la place, parce que autant quand je me retrouve à aller, par exemple, au Dimanche du Conte, ou aller faire vraiment compter, ben souvent, j'ai tendance à amener mon accordéon pour faire quand même, utiliser l'accordéon dans mes contes, et puis mélanger ces trucs-là, même si ça devient des spectacles. Qui n'ont pas tout à fait le même target ou la même manière de... Ils n'ont pas le même chemin, finalement. Ce n'est pas la même structure.
Mm-hmm. Puis tu disais, quand tes débuts de spectacle, tu parlais au public en leur disant que c'est dont vous êtes le héros. Mais cette phrase-là, cette façon d'impliquer le public, est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils se permettent à... Ils se disent, ah, oh, OK, ce show-là, je vais déranger ou je vais... Est-ce qu'ils tentent de communiquer avec toi?
Ben ça dépend des shows, mais puisque je fais pas des grandes salles de spectacle, puis j'ai pas, c'est pas du tout là que ça se passe, mais j'ai fait beaucoup de spectacles dans des petits bars ou des microbrasseries ou des petits lieux. Fait que souvent la proximité était, je dis bien était, parce que je n'ai aucune idée où est-ce qu'on va se retrouver dans un avenir assez proche. Mais souvent les gens, ils vont soit se confier, soit me dire des trucs, mais c'est que j'aborde aussi des sujets qui peuvent piquer certaines personnes. Là, tu sais, comme, ben là, en ce moment, Port Daniel, la cimenterie, là, tu sais, pour être vraiment dedans, là, mais il y a une couple d'années, alors que ça, c'était encore un projet, ça n'était pas terminé, ben, je suis allé faire un show en Gaspésie, parce que ça fait une dizaine d'années là, que je parcours la Gaspésie en genre d'artiste troubadour. Soit sur le pouce ou dans des camions que je me suis acheté ou des vieux autobus ou whatever. Puis, je suis arrivé à Port-Daniel, puis c'était mon ami Stéphane qui travaillait là. Puis, à un moment donné, je me suis mis à parler parce que moi, j'étais ouvertement contre ce projet-là. Puis, j'ai commencé à en parler dans le show. Puis, ça a divisé la salle en deux, littéralement. Puis finalement, c'est devenu, pendant à peu près une demi-heure, les gens se sont mis à parler les uns envers les autres. À communiquer, en fait, puis à débattre. Puis moi, je me suis retrouvé à être un peu le médiateur de la soirée puis à dire, madame, excusez, mais là, la manière que vous venez de parler, je pense pas qu'on va pouvoir sentir. Puis, hey, monsieur, je pense que vous devriez peut-être... Votre argument est peut-être souhaitable, mais la manière dont vous êtes en train de le dire va nous amener nulle part. Puis là, ça a buildé. Puis là, à un moment donné, tout le monde a jasé. Puis j'ai fait, OK, ben là, ça va être la pause, là. On va aller dehors, puis on va revenir pour faire un show après, tu sais. Fait que c'est comme, ça peut aller jusque-là. Je dis pas que ça arrivait nécessairement souvent, mais ça, c'est une soirée dont je vais me rappeler toute ma vie, c'est certain, tu sais. Puis, ben comme, là, tantôt, on parlait d'astuces, puis je vais y revenir, parce que ça, c'est une chose aussi, à toutes les places où je vais, à toutes les fois, partout, c'est que je vais syntoniser la radio locale. Quand j'arrive à quelque part, j'écoute ce qui se passe. Mm-hmm. Puis je vais zapper sur les radios pour juste essayer de comprendre on est où, c'est quoi l'air du... qui parle de quoi, comment ça se passe, c'est quoi le truc. Parce que pour moi, c'est pas d'aller juste faire un spectacle puis présenter ce que je sais faire, puis tout, c'est d'aller à la rencontre des gens, vraiment beaucoup. Puis tu sais, là, ça va me ramener à mon autre métier qui est d'être médiateur culturel et intellectuel à Montréal, que j'ai fait pendant plusieurs années, puis que je considère que je fais encore. Mais tu sais, je travaille pour Execo beaucoup, je suis allé en communauté autochtone, j'ai travaillé dans la rue avec les personnes en situation d'itinérance, j'enseignais en prison. C'est tous des lieux où, pour communiquer, il faut vraiment baisser un... Je sais pas comment dire, c'est pas baisser, c'est pas... Mais Mais tu peux pas avoir un mur devant toi qui dit « Je viens faire de la grande chanson », tu sais, ou « Je viens faire... » Comme je suis avec le monde, pour moi, c'est plus ça l'important. Puis j'ai eu la chance, je pense, encore une fois, tu sais, avec Marco Cagliari, d'envie à faire tous les shows. Je vais me rappeler une fois, Rouyn-Noranda, le théâtre là-bas, le théâtre n'est pas perdu, je pense. En tout cas, peut-être que je fais erreur, mais tu sais, après le show, tu t'es retrouvé, puis il y avait plein de musiciens en place. Puis je veux dire, ils étaient tous meilleurs que moi. C'est moi qui venais d'être plus gros stage, tu sais. Mais j'étais juste entouré de vraiment super bons musiciens. Puis au bout du compte, c'est pas ça, tu sais. Puis, tiens, erreur, tu voulais parler de stratégie puis d'erreur. Je vais retourner derrière. Je vais vous en donner une bonne. À Natasha Kwan, tu sais, c'est une des plus grandes leçons que j'ai eues de ma vie. À Natasha Kwan, on arrive là. D'un, c'est la catastrophe dans Van, tu sais. Puis personne ne veut se parler, là, tu sais, c'est le bout du bout. Et on arrive là, puis c'est la seule fois où je me suis comme chicané avec Carlos Araya, tu sais, puis il est sorti d'un bord de la vanne, je suis sorti de l'autre. On a fini ça en jouant une game de penalty shot au soccer. Tu sais, on a comme fait la paix en jouant au soccer, puis il a gagné, je dois l'avouer. Ben après le show, tu sais, on avait joué devant 22 personnes, tu sais, puis moi, tu sais, j'étais... C'est tout nouveau là, dans ce monde-là de la musique, puis tout, puis je réfléchis, tu sais, je suis fâché, je parle à voix haute, puis tu sais, je l'ai sur le cœur, peut-être d'avoir perdu au penalty shot, ou peut-être de m'échapper avec Carlos, ou peut-être de plein d'autres affaires, mais bon, ce soir-là, ça sort comme ça, puis là, tu sais, je lance à voix haute, ouais, ça valait la peine encore de venir jouer ici, tu sais, pour 20, 22 ou 18 personnes, le chiffre exact n'est pas important, c'est comment je l'ai dit, puis l'intention, puis et la personne qui faisait notre son là-bas et tout, et qui nous hébergeait en plus, qui nous offrait à manger, tu sais, puis tout, tu sais, il m'a juste entendu de loin, puis il a juste fait « Hey, tu viens de jouer devant 10% de ma ville, de mon village, là. Hey, toi, TQ, man, là. » Il y avait quand même 10% de mon village. Quand tu joueras devant 10% de Montréal, là, tu viendras m'en reparler. Mais d'ici là... Pis ça, c'est une grande leçon. Puis je la garde, puis j'y pense souvent. Puis je suis constamment reconnaissant de... S'il y a 3 personnes dans la salle, maintenant, quand je fais un show, je les remercie toutes et tous d'être là. Puis ça, pour moi, c'est un privilège. Puis ça vient aussi avec, avec une responsabilité que de ne pas dire que de la boîte dans un micro. C'est pas facile. Ouais. Fait que j'ai eu la chance de vivre ça sans être front, en fait. Fait qu'il y a de grands enseignements qui m'ont été donnés de manière assez directe. Il en va de soi, mais c'est ça. Ça, c'en était une erreur, mais non, je ne la referais pas. Ça, c'est sûr.
Ah, c'était beau, ça.
Aïe, aïe.
C'est vrai.
Non, mais c'est...
C'est vrai, c'est 10% du village, donc c'est beaucoup, même si c'est juste 20.
Ben, c'est énorme. C'est immense. Je veux dire, je connais pas la population de tous les villages du Québec ou toutes les villes du Québec, mais tu sais, je veux dire, 10% de Montréal, ça ferait quand même un moyen tas de monde, là.
Ouais.
Puis 10% de Québec aussi, là, je veux dire.
C'est ça. Puis ce 10%-là se sont déplacés pour voir le spectacle, tout ça, pour s'intéresser à ce qui se passe dans le village, donc.
Et voilà! Et voilà, puis c'est la même chose. Mais tu sais, c'est ça, c'est que j'ai eu ces cues-là, il y a d'autres histoires, il y a d'autres moments où ça n'a pas été... Il y a des moments où on vient... À cette époque-là, avec Marco, on faisait quoi? 150 shows par année, là, je veux dire, on roulait comme des fous. Là. Fait qu'il y a des jours où ça ne te tente plus, là, des jours où tu n'es pas là, des jours où la route n'était pas belle, que c'était levé du tout. Mais, ça, c'est Carlos Araya encore qui... Ça me l'a dit, t'es comme, man, tes petits états d'âme, puis tes petits problèmes, puis tes affaires, ben... Le monde n'a pas payé pour voir ça, man. Ils n'ont pas payé pour voir un gars boudé sur son banc avec un accordéon. Céline Dion, avec son « The show must go on », n'a pas tout à fait tort.
C'est ouais. Comme,
elle a étrangement tout à fait raison. En fait, c'est une partie du métier qu'il faut se rappeler, puis qui est cool, tu sais, en fait. Puis c'est ça, c'est de... quand même une chance que de s'exprimer devant le public puis d'avoir un auditoire, tu sais,
ouais.
Je pense.
Et hey, puis dis-moi donc, là, juste pour finir, l'histoire de la cimenterie, là où tu as fait une pause après les grosses discussions, les gros débats, quand ils sont revenus, est-ce qu'il y avait une tension dans le public ou au contraire, ça l'a tout relâché puis le monde est encore plus comme willing de faire le party avec toi?
Là, ça s'était relâché en fait parce que ben, le break de l'entraque a été plus long qu'à l'habitude. Je me suis promené un peu de... Puis Stéphane, qui est encore mon ami, là, il t'a comme dit, j'ai jamais vu ça, man, j'ai jamais perçu. C'est comme, le monde se parle plus de ça. C'est comme, les gens se parlent pas de ça, puis tout arrive, man. Pis... Mais, finalement, là-dedans, j'étais juste un fil conducteur, en fait, pour recréer du contact dans certains lieux. Puis après ça, quand on est revenu, c'était comme juste, la salle était à nouveau en mode spectacle, puis je suis reparti avec... J'ai aucune idée avec quelle pièce je suis reparti nécessairement, mais là, on était plus en mode retour en musique, retour dans mon univers, en fait. Puis, c'est long, ça avait bien été, ça avait été cool. Et tu sais, j'ai tendance un peu à faire ça, puis j'aime ça prendre position aussi, puis je dis pas que j'ai raison. Je suis pas un preacher, je suis pas là pour avoir raison, mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien créer des rencontres, en fait, ça, c'est sûr.
Ouais.
C'est vrai, c'est...
Vas-y, Thomas.
Non, vas-y, Marie.
Ben, j'ai dit, depuis le début, ça revient souvent, ça, créer des rencontres, aller à la rencontre des gens. C'est vraiment... C'est-tu ton mojo? C'est-tu comme ça que tu penses à comme créer, à être en public tout le temps? C'est tout le temps... Parce que c'est revenu souvent dans la discussion, là, le mot rencontre.
Comme l'objectif, ça a l'air d'être la connexion beaucoup, ouais, avec le public, tu sais, le côté, ouais.
Ouais, je dois avouer que c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse que, tu sais, je suis pas un musicien de studio, là, c'est pas ça mon buzz, pas en tout. J'aime... Ouais, vous avez raison là-dessus, là, je pense que c'est... tu sais, l'ensemble de tout ce que j'ai fait, c'est ça, tout ce que je fais, en fait, mène un peu à ça, puis... J'aime bien l'idée de aussi shaker le monde. Ben, Thomas connaît un peu plus mon travail que toi, Mike, là, mais je veux dire, j'ai quand même une couple de tunes dans lesquelles, tu sais, puis je rentre, puis je me suis fait rentrer dedans aussi. Ça, c'est une autre chose aussi. On peut peut-être, parce que je dis aller à la rencontre du public, mais il y a du public qui est venu me rencontrer.
Ben oui, ben, c'est sûr que ouais. Pis c'est sain à quelque part, tu sais, si tu décides de rentrer dans le public, faut pas être surpris, à un moment donné, tu rentres dedans, tu sais, puis c'est sain à quelque part. Quand c'est fait bien.
Respectueusement.
Oui, ben, c'est... Ouais, mais tu sais, il y a eu plein de... Je ne nommerai personne pour la suite, mais tu sais, il y a eu des rencontres autant on m'a menacé de me péter la gueule, autant il y en a d'autres qui sont venus de me dire d'arrêter de faire pitié, puis tout, puis j'étais comme, en rien, j'essaie de faire pitié, mais des lieux où on ne s'est pas rencontrés, finalement. Et puis, comme une autre belle leçon que j'ai eue, c'est plusieurs années en Gaspésie, dans mon conte Saint-Siméon, c'est une histoire de marin, bref, puis blablabla, puis je disais quelque part, un capitaine sans fleuve, c'est un être sans raison, c'est un navire échoué, c'est une tristesse fixe. Là, ben, quand je dis ça, il y a un monsieur devant moi qui vraiment s'effondre, il commence à brailler, puis il m'écoute, mais il pleure, man. Puis à la fin du show, il vient me voir, puis il m'a dit, j'aimerais ça que tu m'écrives la phrase que tu as signée, ça va aller sur mon bureau. Puis, tu sais, il adore cette phrase-là, ça a fait du sens pour lui. Puis moi, après le show, je suis juste comme, ah, yeah, man, blablabla, je raconte ça à un autre dude. Ben, il s'appelle Charles, le monsieur. Puis là, Charles, il fait juste me ramener à terre. Puis il fait comme, toi, t'as rien compris, man. Il dit, toi, t'écris des phrases. Hein. Il dit, mais c'est que le monde font avec tes phrases.
Ouais.
Pas toi qui l'as fait. Il dit, tu sais, on va dire, c'est comme, tu peux pas prendre toute la. Tu peux pas prendre tout ça. C'est comme, tu as écrit une phrase qui a vraiment touché profondément quelqu'un. D'accord. Après ça, ce que lui va faire de sa phrase, ce que lui va. Jusqu'où lui amène ces phrases-là dans son propre intérieur, c'est chaque personne qui fait le chemin avec la. Avec la poésie des autres, finalement, puis avec les mots des autres. Il y a une partie qui est qui, je pense, dépasse et transcende l'émetteur, du moins. Mm-hmm. Voilà. Un petit peu deep, je peux vous parler de quand on m'a menacé de me péter la gueule. C'est vraiment...
S'il te plaît. Non, non, mais... OK, mais écoute, moi, j'irai au deuxième extrait. J'irai au deuxième extrait, en fait, qui est le projet, je crois, d'intervention que tu as fait dans la rue avec les dessins. C'est ça?
La voix de hasard. Les voix du hasard.
Mais je pense qu'en plus, c'est un bon exemple de justement utiliser l'art pour faire une rencontre entre les gens. Là.
Oui, vraiment. Donc, c'est parti quand tu veux, Mike.
C'est parti. Alors, moi, je comprends pas pour le son. Mais en même temps, je vais rajouter le son, mais si tu veux commenter un peu ce qu'il en est de l'œuvre artistique, puis slash, gêne-toi pas, je vais pouvoir garder ça au montage aussi.
Ben, je vais juste ouvrir pour voir on est où à peu près. OK, parfait. Dans le fond, ça, c'est un projet que j'ai créé quand je travaillais dans des centres pour personnes âgées atteintes d'Alzheimer, en fait. À ce moment-là, j'enseignais. Je devais donner des cours de peinture. On pourra se poser la question sur la nécessité d'offrir des cours de peinture ou des cours de quoi que ce soit à des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Mais bon, à force de voir des gens finalement qui ne se rappelaient pas qu'eux-mêmes avaient fait un dessin ou une ligne, je me suis dit que ce qu'il fallait, c'est créer du collectif et que chaque personne, même si elle allait oublier ce qu'elle avait fait, ben la trace du travail allait être permanente. Fait qu'il y a à peu près une trentaine de toiles comme ça là, qui sont dans la couronne montréalaise, beaucoup à Laval en fait, dans plein de lieux pour personnes âgées. Puis j'ai fait ça, ben là, ce qu'on voit dans la rue, c'est avec l'organisme Execo pour qui j'ai beaucoup travaillé, puis avec qui je suis encore proche. Là. C'est juste que dans les dernières... Les deux dernières années, j'ai moins eu l'opportunité de travailler avec eux. Execo.org, s'il y en a qui veulent aller voir, c'est un superbe organisme. Puis j'ai travaillé avec on a fait 4 toiles comme ça, puis là c'était surtout en partenariat avec les différents centres qui viennent en aide aux personnes autochtones à Montréal, en aide. Oui, du logement, là, par exemple pour le PAC ou pour Open Door. Là, cette vidéo-là, on est devant le Centre d'amitié autochtone de Montréal. Puis, comme vous pouvez le voir là, dans la vidéo, il y a du monde vraiment de partout. Le concept est assez simple, c'est qu'on dessine avec des voitures téléguidées. Quand il y a 3 voitures en même temps qui se baladent, qui ont des crayons dessus, ça fait des lignes. Puis quand je vois qu'il y a assez de lignes, ben on arrête les passants puis on demande simplement aux gens, ben, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a là. Puis bon, on choisit. Puis là, dans ce cas-là, ben, c'est un oiseau qui a été déterminé. La toile est toujours au Centre d'amitié autochtone, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent aller la visiter. Et c'est un lieu qui est très, très agréable à fréquenter, en fait. Il n'y a pas... Il n'y a aucune gêne à aller rencontrer les gens là-bas. Ils ont des super studios dans le sous-sol pour faire de la sculpture sur pierre, puis tout. Si en plus on... Ce qui était vraiment cool, en tout cas, de ce shot-là, sociale, ce projet-là, c'est pas tout à fait là qu'on était, parce que le projet, on l'a déménagé un petit peu après vers Guy Concordia, où est-ce qu'il y a le Red Roof, où c'est un centre d'aide à Montréal. Puis j'ai des collègues qui m'ont dit « Hey, regarde, c'est Arcan, le cinéaste! » Fait que là, je suis parti après. Je suis allé le voir, puis j'ai dit « Hey, monsieur, franchement, si vous voulez venir donner un petit coup de pinceau sur mon œuvre collective, ça serait vraiment cool. » Là, comme de fait, il accepte, puis il vient. Et les règles étaient assez simples, c'est de dessiner à l'intérieur des formes prédessinées, puis tout, mais M. Arcan commence à peinturer n'importe où. Puis là, il y a un autochtone de la rue, tu sais, puis il est assez grand, ce personnage-là, je sais pas, il doit mesurer 6 pieds 1, 6 pieds 2, certains. Et l'autre personne qui est juste à côté, c'est une personne qui est en situation d'itinérance puis qui est tout petit, doit mesurer, je sais pas, 5 et 7. Mm-hmm. Il la regarde et « Hey, le grand! T'as pas compris qu'on signe, toi! C'est là qu'il faut que tu dessines! » Puis là, à ce moment-là, il y a eu le niveau 0 de distanciation sociale dans la vie. C'est comme... Là, c'était comme tout le monde est égal autour d'une toile, autour d'un foutu coup de pinceau. Et ça, c'était vraiment cool. Fait que oui, l'idée de la rencontre est primordiale. C'est clair. Puis, il y a un autre shot aussi avec un, avec une personne en situation d'itinérance qui est dans la rue. Donc, il a bu quelques bières déjà dans sa journée. Puis, il y a les policiers qui arrivent. Puis là, finalement, je donne une manette au gars qui est couché à terre. Puis le policier, il prend une manette. Puis là, les deux, ils commencent à jouer aux auto-téléguidés sur la toile. Puis, puis tu sais, le gars qui était couché à terre, il regarde le flic. Puis il dit, là, ce que je te fais là-dessus, tu peux pas avoir de ticket, c'est pas grave. T'sais. Puis le flic, il dit, non, non, c'est un jeu, des autos. T'sais. Puis là, l'autre, il est comme, watch your ass, dude. Puis là, tu sais, il arrête pas. Tu sais, lui, il veut pas dessiner, il veut rien faire. Il veut juste scraper le char du flic et le virer à l'envers.
Si.
Ce qu'il réussit à faire plein de fois. Et le policier, très, très, très bon joueur, le policier à ce moment-là. Puis là, il est à peu près midi. T'sais. On est au métro Place des Arts à Montréal, il est midi. Puis là, le policier regarde le gars qui lui, il ne s'est jamais levé, il est joué à terre. Là, t'sais. Puis là, le policier, il dit, écoute, il dit, là, tu m'as battu à ça. Il dit, je te gage que je fais plus de jumping jack que toi. Si tu me bats, je te paye un café. Fait que là, le dude, il se lève. Puis là, on est rentré dans la scène surréaliste, mais combien réelle, de cette personne-là qui était couchée à terre en train de boire de la bière, qui est face à un policier avec sa veste par balle puis tout, puis qui font une compétition de jumping jack un face à l'autre. En pleine heure du midi, pleine heure de pointe à Montréal. Pour finalement, le policier gagne, mais finalement, va quand même acheter un café au gars dans la rue. Ça, c'est pas mal ce que j'aime le plus faire dans la vie. T'sais. Puis ça m'amène... Puis je parle de ça dans mes shows d'une manière ou d'une autre. Ça passe dans mes chansons aussi.
Mm-hmm.
Je pense qu'au bout du compte, quand on est vraiment engagé dans ce qu'on fait, puis quand on prend les choses avec volonté, puis qu'on je travaille pas à mon antithèse ou je travaille pas contre moi. Fait que peu importe ce que je viens qu'à faire, que je sois en train de dessiner ou que je sois en train de travailler dans la rue avec un organisme ou en déficience intellectuelle ou en prison, whatever, ben, cet humanisme-là traverse ce que je fais, en fait. Puis même quand je m'attaque à des gens dans mes chansons ou quoi que ce soit, ou quand... C'est pour une volonté d'un meilleur commun, en fait, du moins que moi j'idéalise peut-être un peu ou que je vis avec utopie, mais ça reste un peu la même chose. À moins de vraiment vouloir être malhonnête avec soi-même, je ne pense pas qu'on travaille contre nous, tant que ça.
Non, c'est nice que les rencontres que tu crées, ceux qui te marquent, vont t'imprégner dans les autres rencontres que tu vas recréer. Ouais. Que là, tu parles dans tes chansons, dans tes poèmes. Ouais, ça nourrit tout, finalement. Là. Puis, dis-moi donc, comme là, tu dis que tu faisais des rencontres, puis là, ça va médiateur sur plusieurs affaires. Est-ce que ton approche devient différente? Est-ce que le médium, l'art que tu amènes, mettons, en prison ou à la rue ou quoi que ce soit, il y a une adaptation à faire ou peu importe, les gens, ils sont ouverts à n'importe quoi?
La prison s'est terminée depuis un petit temps. Ils n'ont pas aimé mes techniques d'enseignement tant que ça. Donc, je me suis fait remercier à un moment donné.
Okay.
Je suis un des rares qui s'est fait mettre dehors de prison, je pense. ils aimaient particulièrement pas le fait que je fasse des cadavres exquis en prison, en fait.
Ah ouais?
Ça, c'est... Ah non, mais là, ça, c'est... Hey man! À cause du mot cadavre?
Mais ben, voyons, pas à raison du jeu.
À cause du mot cadavre?
Dans cadavre exquis.
J'avais pas le droit de dire le mot cadavre. Fait qu'on s'est mis à appeler ça des instantanés créatifs.
Oh, des instantanés créatifs!
Je ne vous mens pas, mais...
Des instantanés créatifs!
C'est beau, tout ça?
Ouais. Mais tu sais, je veux dire, le loisir d'amener mon accordéon en prison, tu sais. C'est vraiment hot. Ouais. Je commençais mes cours en leur jouant de l'accordéon aux gars. Et c'est malade. On écrit des bouts de chansons ou des bouts de textes qui sont restés. J'ai porté leur voix à un moment donné pendant le Festival de la philosophie à Montréal. Il y a une des éditions que j'ai vraiment... Je suis allé sur scène pour lire les textes de ces gars-là. Peu importe le côté risible de comme t'as pas le droit de dire le mot cadavre, il s'est passé des vraies choses vraiment, vraiment, vraiment cool là-dedans. Puis, c'est sûr qu'il y a des médiums que je pense qui sont plus... qui peuvent aller vite pour la rencontre, là, je dirais. Puis la musique en est un. Je me rappelle comme ça, un soir, j'étais à Projet Autochtone Québec, Montréal, un lieu de résidence. Pour les personnes en situation d'itinérance autochtone, surtout. Avec mon accordéon, puis un jour-là, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait un gars dans une chaise berçante, puis je me suis juste mis à jouer un petit air de blues, tu sais. Et lui, il s'est mis à raconter son histoire, tu sais, comme sur le flow qu'il avait envie de le faire. Je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, la musique fait un job qui transcende, finalement, même... Ça transcende l'humain complètement. Tu sais, la musique est probablement le langage le plus universel, même si peu de monde l'utilise ou en joue ou vont dire qu'il parle. Tu sais. Mais le feeling qui passe là, puis c'est la même chose avec les gens, quand je travaille avec les gens d'Alzheimer, tu sais, qui sont atteints d'Alzheimer, ouais, les personnes.
Là, ça a coupé de ton côté. Tu disais que c'était l'Alzheimer, c'est des personnes âgées, puis après ça, ça a comme un peu coupé. On n'a pas entendu la suite.
Ah, ben, je vais essayer de te repogner quelque chose quelque part, là. Mais c'est que la musique transcende, puis que ce soit avec les. Pas nécessairement besoin d'en jouer ou de connaître ou de savoir parler ce langage musical-là. Mm-hmm. Surtout pour le recevoir, en fait. Fait que le bien que la musique fait, c'est vraiment, je pense, le langage universel qui peut permettre beaucoup de... permettre d'accepter énormément de choses, en fait, et d'utiliser comme rythme de passage. Puis là-dessus, je peux peut-être vous parler d'un autre truc, mais là, c'est... J'en parle des fois dans mes shows, quand on arrive à ce moment de confidence, puis là... Yeah, mais... Il y a plusieurs années, je suis allé jouer dans la maison de vieillesse où ma grand-mère était, tu sais, puis j'allais souvent. Et elle, quand je jouais, là, tu sais, elle se mettait debout, puis elle faisait semblant de jouer du piano comme quand elle était petite, ou elle jouait du violon comme quand elle était petite. Et juste comme je m'en allais, bien, il y a une dame qui... Bien, il y a une infirmière qui est venue me voir, puis elle m'a demandé « Est-ce que tu peux aller jouer pour une personne dans sa chambre? » Et tu sais, je sais comme « Mais pourquoi elle n'est pas venue? » Puis elle a dit « Bien... Elle est en phase terminale, elle peut pas, elle peut plus sortir, elle peut plus être en contact. » J'ai dit, ben oui, je vais y aller. Et tu sais, cette femme-là avait à peu près l'âge de ma mère, ou peut-être un peu plus jeune, tu sais, ce qui m'a déjà vraiment bouleversé. Elle était dans une grande pièce, il y avait la guitare de son fils, il y avait de la place pour accueillir des gens, puis tout. Puis j'ai joué un morceau, puis elle était couchée au début quand j'ai commencé à jouer, puis après ça, tu sais, elle s'est levée, elle s'est avancée vers moi. Puis elle était comme arrivée vraiment proche, puis là, ben. Je me suis juste fermé les yeux, puis j'ai continué à jouer ma chanson. Puis quand j'ai fini la toune, ben, elle avait ses mains devant mes yeux collées. Puis là, elle m'a serré dans ses bras, puis elle m'a remercié, puis elle m'a dit « Maintenant, je peux partir.
»
Et ça, cette femme-là, je ne sais même pas son nom, je ne sais pas d'où elle venait, je ne connais pas son histoire, mais j'y pense à toutes les fois où je rembarque sur un stage. C'est comme... Pour moi, c'est un catalyseur d'énergie aussi, puis c'est ça, c'est pour ça que je dis que je pense que c'est un privilège d'avoir un micro, de parler, de pouvoir prendre position publiquement, puis c'est excessivement puissant, en fait.
Aïe, aïe, gros...
Tabarnouche. Je trouvais ça beau ce que tu disais, je trouvais ça juste dommage que dans nos écouteurs, il y a le fond de ma fille en même temps.
c'est le début d'une vie, c'est correct.
Tu mettras voir un ami pleurer de Brel en background.
Mais hey, écoute, le temps file, Fred. Je sais qu'on pourrait avoir des discussions de même absolument toute l'après-midi. On est rendu à la soirée. Toute la soirée. Mais on serait rendu au défi avec toi.
Oh yeah!
Yeah, on s'en est pas encore, on s'en est pas parlé, moi pis Ben, qu'on a comme pas.
Je te fais confiance, je pense que.
Ok, ah ben, tu devrais pas. mais, tu sais, l'idée du défi, en fait, c'est pas de. Parce que, tu sais, dans les soirées langue à langue normale, bon, t'es venu, tu sais, les slameurs, slameuses font de l'humour, les humoristes font du slam, on inverse les disciplines. Fait qu'ici, dans le podcast, c'est plus qu'on va te proposer comme si du jour au lendemain, tu prends une autre avenue artistique. Fait que comment est-ce que tu aborderais ça? Tu vois, on se projette pour le fun, là. Comment tu aborderais ça, mais avec l'artiste que t'es, là? Tu sais, avec ce que t'es, ton bagage, comment tu aborderais ça? Puis je sais pas, j'ai le goût de te proposer, mais au pire, si on s'en est pas parlé... tu décides d'aller, tu deviens artiste en danse.
Artiste en danse?
Wow. Ouais, en danse. Ça serait quoi l'approche? Wow. Parce qu'il y a plein d'approches, tu sais. Comment t'approcherais ton art de la danse?
Je pense que j'aurais pas le choix de suivre vraiment la tendance de l'accident. Ça, c'est okay. pas mal sûr. Puisque tout mon bagage, toutes les blessures que j'ai accumulées au fil du temps me pousseraient vers ça. Mm. Fait que je pense que ce qui m'intéresserait probablement le plus, ce serait d'aller dans une optique un peu de probablement la danse contemporaine. Pour aller dans exploiter la restriction ou la différence ou la mécanique, du moins. Je peux pas aller faire du ballet, même si je fais de superbes pointés là, avec mes pieds. Là, mais j'ai absolument pas la souplesse qui va m'amener là. Ça, c'est sûr. Mais là-dessus, je pense qu'il y a aussi, veux pas, dans la partie de mon expérience qui joue aussi, puis puisque je travaille beaucoup avec la gang à Rambrou, puis qu'on travaille beaucoup avec des personnes handicapées, autant au niveau... déficience intellectuelle ou handicap physique aussi. J'ai eu la chance de voir des artistes de danse vraiment cool venir travailler dans le mouvement puis créer vraiment des chorégraphies dans un autre mode, en fait. Puis ça m'a énormément touché. Fait que je pense qu'il y a aussi mes limitations à moi qui m'amèneraient dans quelque chose de plus peut-être mécanique puis restreint dans le mouvement. Mais je pense que j'irai encore vers une optique de la rencontre, en fait, pour aller voir, aller jouer quelles sont les limites de l'autre et surtout quelles sont les libertés puis quelles sont les possibilités, en fait. Puis comment, autant pour dans mon cas que dans celle de la personne, la personne avec qui je travaillerais, de comment on peut transcender ces limites-là. Puis là-dessus, je pense que là, encore une fois, j'ai une mini-anecdote, mais on avait une journée à... Comment ça s'appelle? Différent comme tout le monde à Montréal, ça se fait au parc Émilie-Gamelin. Je pense que c'est ça. En tout cas, si je me trompe, bref, c'est pas grave. Puis j'ai un ami avec qui je travaille depuis des années. Il est en chaise roulante, handicap, toute la bébelle. Puis ce jour-là, il avait installé un parcours de course de chaises roulantes, tu sais. Fait que là, moi, j'ai regardé la personne avec qui je travaille, Yannick, puis là, j'ai dit, man, je fais une course contre toi, tu sais. Puis, je pensais avoir une chance de compétitionner.
Non,
c'est pas arrivé, c'est jamais. Fait que, je pense qu'il y a ce volet-là que j'ai mangé en faisant une course. En pensant que j'avais peut-être une chance de au moins ne pas être tourné en totale dérision, qui fait en sorte que j'irais sans doute à la recherche du savoir-faire de personnes qui souvent on va considérer probablement, assurément, en fait, à tort comme plus limitées qu'ils ne le sont réellement.
Est-ce que les mots auraient encore une importance dans ta création? Est-ce que tu la trouverais autrement, cette importance-là? Je sais pas, est-ce que tu aurais d'autres artistes pluri, mais est-ce que tu intégrerais d'autres langage, justement, de la scène, comme, je sais pas, justement, un conteur ou une conteuse, quelque chose comme ça, je sais pas.
Ben écoute, ça serait... Là, c'est amusant parce que nous autres, on s'est connus quand même à, contre Abado dans des compétitions pluries, en fait. Puis là, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, la boucle qui est en train de se créer, que finalement, on devrait peut-être proposer, vous devriez peut-être proposer une soirée langue à langue dans un prochain concours de contes dans le but de faire performer des artistes, non pas dans une autre compétition de langue à langue, mais de bien de corps à langue. Et qu'on voit des artistes finalement plus du domaine plus physique, je dirais, que ce soit en cirque, en danse ou en performance de toutes sortes, se retrouver à venir faire du conte alors que moi je m'en trouverais être obligé d'essayer de faire du unicycle. Ça serait probablement ma prochaine commotion cérébrale.
Le mot contre le physique.
Ou le mot pour ou avec, ou comment, en tout cas, comment détruire, pas comment détruire, mais bien comment décrire une performance. Si je me vois essayer de faire de la contorsion, ce serait assurément une performance assez douteuse et limitée, en fait. Mais ce serait beau de voir peut-être une contorsionniste en train de décrire soit ce qui se passe dans mon corps ou ce qui a l'air de se passer de l'extérieur. C'est ça. Que là, on pourrait mettre aussi un micro pour avoir mes sons, finalement, puis se rendre compte que les onomatopées peuvent dire beaucoup.
C'est nice. C'est des bonnes idées. On va prendre ça en note, en tout cas, pour le corps et langue. Il y a quelque chose à faire avec ça.
Le corps et langue.
Le corps et langue, man. C'est de toute beauté.
Ouais. Est-ce que... Dis-moi, est-ce que tu as des réseaux sociaux à plugger, des choses que tu veux que les gens qui nous ont écoutés te suivent?
Ouais, ben j'en ai pas beaucoup en fait, ça va être assez facile. Bandcamp.com/FredPelloquin, il y a l'album Caresse et Stigma, et puis il y a le single La machine à claque sa gueule, qui je pense va être d'actualité malheureusement éternellement. Peu importe le parti politique qui va prendre le pouvoir. Voilà. Puis je cherche toujours des chorégraphes pour faire une grande manifestation dans laquelle on préfère un peu à la Michael Jackson, une espèce de danse de machine à claque sa gueule. J'aimerais vraiment ça, un genre de trailer de machine à claque sa gueule. En tout cas, j'attends toujours les propositions. Sinon, ben, sur Facebook, Fred Pelloquin Musique, c'est une page de musique. Puis, à part de ça, j'ai une chaîne YouTube qui a quelques vidéos, quelques bouts de spectacle. Pour le reste, Instagram, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Il y a juste des photos de roadkill dessus. C'est pas super intéressant. Je pense qu'il y en a deux ou trois. Et puis, j'ai un site web en photographie qui éventuellement va revenir, mais ben, il va apparaître, mais là, il n'est pas prêt encore. Que c'est à peu près ça, je pense. Mais... voilà.
Cool. Ben écoute.
Hey, attendez un peu. Allez voir aussi execo.org, puis la gang à Rambrou, puis toute cette gang-là. C'est super cool.
Puis où est-ce que tu es présentement déjà, le Anne Marionnette?
Ouais, ben oui. Ben là, Anne Marionnette est rentrée, mais elle était trop timide. Elle n'est pas venue. Ah. Elle est venue prendre son morceau. Elle a disparu. Fait qu'elle est un peu magicienne aussi. Une petite affaire. Mais oui, Anne Marionnette, merci, toi. Tiens, David Leblanc, vu que c'est grâce à lui. Puis bon, ben, toute la gang, tout le monde autour avec qui j'ai la chance de partager ma folie. Et vous, merci.
Ben, écoute. Ben, merci, merci d'avoir pris le temps. Merci de nous avoir partagé tes expériences, tes leçons de vie. Ouais. pour le meilleur et pour le pire. C'était vraiment
le fun. J'ai gardé les pires, je te les raconterai dans une autre circonstance.
D'accord. J'ai vraiment hâte de les entendre. Mais écoute, merci, t'es toujours très généreux.
Ouais.
Écoute, je pense que c'est pas mal ça.
Ouais, merci beaucoup. C'était une. J'ai juste bouclé la boucle, mais c'était une. On se connaît pas du tout et c'était une belle rencontre.
Ben, j'ai bien hâte de te rencontrer en vrai, en tout cas. C'était super agréable.
Ouais.
Que je pense que c'est là la fin, puis c'est là qu'il faut que je dise, mesdames et messieurs, le podcast Langue à Langue va prendre fin dès maintenant. Bonne soirée! Oh, on va se prendre la bière?